Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast de cinéma bimensuel. Nous sommes bien entourés en cette période de fin octobre, bientôt Halloween, bientôt la saison qui fait peur. Je sais pas où je vais avec cette intro, mais ce que je sais, c'est que nous avons un invité autour de cette table pour cette édition. Il s'appelle Vincent et je vais demander à tout le monde évidemment de bien applaudir très fort.
Vincent, bonjour.
Merci.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça fait de se faire applaudir, Vincent ?
Bon, habitude.
Alors justement, l'habitude, qui es-tu et pourquoi as-tu tant l'habitude de te faire applaudir ?
Non, bah c'était un énorme mensonge, j'arrête direct avec ce truc. Je m'appelle Vincent, écoute, quoi dire, j'aime bien les plats en sauce.
Important.
Je chausse du 46.
Important.
C'est compliqué pour trouver des chaussures. Mais sinon, je tente de faire des tournages de temps à autre.
Ouais, ouais. T'as bossé sur quoi ?
J'étais sur un court-métrage de la résidence Fémis, là,
okay.
Qui s'est terminé.
C'est bien passé ?
Ouais, ça va. J'étais directeur de production et j'ai eu la chance de jouer un crackhead dans une scène.
Intéressant. Ouais. Mais tu t'es à la tête un peu d'un crackhead.
Ouais, oui. On m'a dit souvent.
Oui, écoute, c'est un vrai plaisir. T'as fait partie des bookmakers, si j'ai bien compris,
oui.
Ta bio Twitter ?
Oui.
Ah ouais, joli hein, quand même.
C'est là qu'il se renseigne.
Attends.
Oui, j'étais stagiaire chez les bookmakers.
C'est bien passé ?
Super boîte. Du coup, bookmakers, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une antenne de programmation commune qui a été créée par Capricci Film et Jokers.
Mm-hmm.
C'était chouette. C'était chouette de bosser dans cette ambiance-là, de travailler avec le catalogue de Capricci, des Jokers.
Ouais.
Après, quand tu passes ton temps à être au téléphone avec des projectionnistes en France profonde qui perdent des disques durs que tu leur envoies toute la journée, tu vas 50 fois à la poste par semaine, c'est un peu relou.
C'est aussi ça, le glamour du film.
Mais il y a deux, trois trucs cool. J'ai notamment pu voir Galveston de Maine Laurent en avant-première. Bon, ça, c'est pas un truc cool, du coup.
Mmh.
C'était vraiment terrible.
Ok.
Mais non, c'est un truc cool. Ah, j'ai rencontré Mads Mikkelsen une fois.
Ah, et alors, il va bien ?
Ouais, il m'a touché l'épaule, il m'a parlé en anglais. Comme je suis une burne en anglais, j'ai pas pu lui répondre, mais...
Ouais, c'est donc plus moyen en termes de...
Mais il m'a touché l'épaule par deux fois.
Chez Matt, ça veut dire beaucoup. On y reviendra. Nam, on va faire un petit tour des recos culturels et on peut applaudir Nam, évidemment.
On s'applaudit tous.
Comment ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Très bien. Personne me demande si moi ça va.
Si, je te demande souvent.
Je mens. Nam, ta reco culturelle de ces deux dernières semaines, s'il te plaît.
Alors, moi j'ai regardé le film Cabale de Clive Barker.
Ah.
Que j'ai découvert du coup. Et puis je m'attendais à un film un peu à la Hellraiser, c'est-à-dire un film d'horreur fauché. Et ça commence comme un film d'horreur fauché. Et en fait, je me retrouve devant un espèce de prototype de Hellboy 2 de Guillermo del Toro. Mmh. Parce qu'on a le même genre de thématique, le même genre d'imaginaire. Donc, un monde fantastique souterrain, caché. Qui peut être effrayant parce que c'est pas habituel, c'est étrange, etc. Mais bon, les gens, c'est comme des gens qui essaient de vivre et qui sont chassés par l'humanité, qui peuvent pas se montrer, etc. On est dans ce genre de truc. C'était très, très surprenant.
Okay.
Et puis très cool. Voilà.
Parfait. Lila, bonjour Lila.
Bonjour.
Roco culturel.
Bon, je vais éviter de tomber dans la facilité et de vous conseiller The Haunting of Bly Manor, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Même si assez différent de... ça va devenir ma culturelle, tant pis.
Allez.
Je voulais faire un truc un peu plus original, mais bon. Je sais pas s'il faut vraiment le considérer comme une saison 2 de The Haunting of Hill House, mais en tout cas, pas non plus une itération, mais bon, dans le prolongement, c'est assez intéressant parce que on a quand même un changement de traitement. Là où The Haunting of Hill House avait vraiment velléité de mise en scène assez péchue, assez ambitieuse. Là, on reste sur quelque chose d'un peu plus académique dans la réalisation. Mais j'ai trouvé les personnages plus touchants, les relations mieux écrites. Après, c'est des thématiques qui, finalement, sont assez opposées, puisque The Haunting of Hill House va beaucoup parler des liens de la famille, alors qu'à l'inverse, The Haunting of Bly Manor est plus une série sur la solitude. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux séries qui, bien qu'en étant très similaires, ont des ambiances qui sont vraiment, j'irais pas jusqu'à dire opposées, mais en tout cas très différentes et en chacune une personnalité propre.
C'est toujours Mike
Flanagan. C'est le même showrunner. Alors, si j'ai bien compris, là où dans The Haunting of Hill House, il s'était plus occupé de la mise en scène, là, il a plutôt supervisé l'écriture.
D'accord.
Donc, c'est peut-être aussi là le fait qu'on ait une mise en scène moins ambitieuse, mais une écriture qui, moi, en tout cas, m'a plus parlé. Mais oui, c'est toujours même équipe, une partie des acteurs également qu'on retrouve. et qu'ils sont tous très bons, et une partie aussi de nouveaux acteurs qui n'étaient pas dans la saison 1, mais qui sont tous excellents. J'ai absolument plus les noms en tête. Honnêtement, moi, c'est vrai que c'est pas forcément... J'avais pas adoré Hill House. J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas vraiment chamboulé. Bly Manor, je dis pas que c'est une œuvre qui va énormément me marquer, mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la suivre, en tout cas.
Ok. Justin, bonjour, Justin.
Bonjour.
Bon.
Justin. Alors, Marocco Culture, ça sera un reco musical. Donc, début octobre, il y a un coffret qui est sorti avec l'intégrale des albums remasterisés de The Divine Comedy. Alors, c'est un faux groupe, parce qu'en fait, c'est une personne, c'est Neil Anon qui a pris un nom. C'est un artiste solo, mais qui fait croire que c'est un groupe. Et donc, c'est un des meilleurs groupes des années, de Britpop des années 90. Mm-hmm. Donc, qui est un peu intemporel, c'est-à-dire qu'ils ont une pop un peu... orchestral, un peu à la Scott Walker, avec des grandes ballades, avec des accords, un orchestre symphonique, une voix de crooner, mais avec des textes plutôt contemporains, assez ironiques. Et donc, il y a ce coffret intégral qui est sorti avec tous les albums. Donc le coffret est un petit peu cher, c'est plus pour les fans. Mais si je dois recommander des albums, voilà, c'est pour vous découvrir parmi les albums qui sont ressortis. Il y a trois albums des années 90. Il y a Casanova, qui est un album concept, donc autour de Casanova, où il y a des textes un peu ironiques, où il se prend pour un séducteur, où il est un peu goujat, assez drôle. Il y a un autre album, un short album, About Love, de 97, où c'est le pendant premier degré de Casanova, où c'est un album romantique, mais là où il la joue vraiment premier degré, avec un côté très dramatique. Et puis un album de 98 qui s'appelle Fin de siècle, où là c'est le craquage, grand album, grand orchestre, des chœurs, espèce de pétage de boulons grandiloquent, mais assez génial, quoi. Et donc je recommande, donc c'est vraiment vraiment bien, donc Divine Comedy,
ça marche. Et on accueille encore de nouveau Vincent, et on applaudit toujours deux fois les invités.
Yes, c'est la règle, évidemment.
Vincent, je vais te demander deux petites choses. Avant ta reco culturelle, la première, ça va être, est-ce que tu peux nous conseiller deux films qui pourraient rentrer dans nos coups de projo, par exemple, selon la définition qu'on a, que tu connais.
Des connaisseurs, ils sont énormément un des deux qui n'est pas hyper original, mais
allons-y.
Je vais regarder d'en parler. C'est Schizophrénia.
Oui.
Voilà. Oui. On suit un tueur en série. C'est en Autriche, il me semble.
C'est ça, c'est autrichien, ouais.
Qui sort de prison avec une seule petite idée en vie, c'est recommencer à buter des gens.
Ouais.
Et t'as tout le film qui se poursuit, t'es accompagné, t'as peu de dialogue, très peu de dialogue, t'es accompagné tout le temps avec en voix off. Et quand tu regardes le DVD de ce truc-là, t'as Gaspard Noé, c'est un de ses films fétiches, ils avaient repris d'ailleurs cette phrase qu'ils avaient foutue sur le DVD, sur la jaquette. Et j'ai regardé plusieurs fois ce truc-là, et Noé conseillait de le regarder en VF.
Ah ouais?
Sauf si vous parlez autrichien, je sais pas si c'est
le fond de la table. Faut être accroché, ouais. C'est un peu dans la veine de Possession, si jamais.
Ouais, ouais. Puis t'as des plans qui sont vraiment graphiquement et qui sont sublimes.
C'est ça. Mais pour le coup, quand tu dis effectivement que Gaspard Noé s'est beaucoup inspiré de... C'est Angst, je crois, en VO.
Ouais, c'est Angst.
C'est pas pour van. C'est-à-dire que tu regardes deux minutes de film et tu dis oui, en effet. C'est...
Surtout qu'en fait, il existe une version cinéma, une version qui est décondée par le producteur.
Ok.
Qui a rallongé de 7 minutes, un truc comme ça, où je sais pas laquelle des deux vous avez vu.
Moi, je sais pas.
Au début, t'as un petit diaporama où t'as le mec qui parle et qui... t'as qu'une voix off, on voit le tueur en série quand il est gamin, on en parle avec des photos en disant qu'il avait eu des sévices corporels par une prof de chant ou de piano. Et c'est comme ça. Et en fait, lui, Noé, il reprend exactement le même concept dans l'intro de Seul contre tous. Il dit ouais, moi on m'appelle Boucher, tout ça.
Ouais,
ça reprend pareil, du coup, oui, tu vois que ça l'a bien inspiré. Et aussi, toujours dans les mouvements de caméra qui sont fous.
Ouais,
c'est des mouvements de caméra. On ne sait pas trop comment ils ont été foutus, notamment t'as le héros qui sort, enfin le héros.
Oui, l'anti-héros.
L'anti-héros qui sort d'un taxi, à toute berzingue en traversant dans une forêt. Et t'as un plan qui est en hauteur, qui est encore plus vite que lui, en diagonale. Là, les mecs, il en parlait, il disait qu'il supposait qu'ils avaient foutu une caméra sur une tyrolienne, mais même ça, il n'en était pas certain.
Ouais.
Le film est assez élégant, sur plein de petits plans comme ça.
C'est clair.
Donc je le conseille. Sinon, deuxième film, c'est Ex-Drummer de Quan Mortier. Alors, je sais pas si ça vous parle, ça. Un film qui date de 2007,
okay.
Qui est belge. Où les mecs parlent pas français, hein.
Évidemment.
Du tout. Et c'est un auteur de bouquins, qui doit avoir une quarantaine d'années, qui a fait un ou deux succès, mais qui n'arrive plus à écrire. Et trouve comme nouveau sujet de son bouquin de parler d'une bande, d'un groupe punk de rock.
Okay.
Où la spécificité, c'est que tous les membres du groupe sont handicapés. Donc il y a un mec qui est sourd, un type qui n'arrive pas à parler, un mec qui a un bras raide et qui joue de la basse. Et lui arrive et joue leur batteur. Donc son handicap à lui, c'est le fait qu'il ne sache pas comment jouer de la batterie.
D'accord.
Et c'est un film qui est quand même vraiment, vraiment bien dérangeant.
C'est quoi, c'est malaisant, c'est un peu...
Ouais, c'est quand même très violent.
Ouais.
C'est très violent. T'as un personnage qui l'appelle, je crois qu'il l'appelle Gros Ob dans le film. Il y a un mec qui a un énorme pénis qui fait genre 40 cm. Dit comme ça, on dirait un petit peu que c'est South Park ou quoi, alors que non, c'est vraiment très chelou. Et t'as une scène, et ce mec-là est vraiment une ordure, un type horrible. T'as une scène où t'as ce personnage qui parle à l'écrivain avec sa femme à côté, il parle dans une table avec un champ contre champ, et d'un coup, ça cut. La conversation, c'est la même, sauf qu'ils sont dans une sorte d'endroit un peu bizarre, très, très étroit, et tu comprends que le mec il dit ah, regarde, j'ai fait ça moi-même. Tu comprends qu'en fait, ils sont dans le vagin de la femme de Gros Ob.
Alors en fait, moi, mon métier c'est d'enchaîner. Et c'est pas évident en fait. Là, je peux pas exercer mon métier de manière normale.
Et bah, t'as une galerie de personnages comme ça, t'as un mec qui a le sida et son but c'est de filer à plus de personnes possible.
Très bien. Très bien. Très bien.
On a perdu Robert.
Je suis gêné. Je suis socialement gêné.
Mais il est vachement bien le film.
Et hein. Ça, tu conseilles.
Ah, vraiment. Vraiment. C'était une dingue.
C'est Ex-Drummer, tu m'as
dit. Ouais, moi, c'est mon frère qui me l'avait offert à Noël quand j'étais au collège.
D'accord. T'as une famille de tarés, en fait. C'est ça qui se passe.
Ça va. Hein. Une famille du sud-ouest normale, je dirais.
Oui, ok. Ouais, c'est Magret, Ex-Drummer. Ouais. Tu serais tranquille, quoi.
Très bien.
Je sais pas quoi dire, ta recoupe culturelle s'il te plaît, sors-moi de là.
Ouais.
Non,
bah...
non.
Fargo saison 4.
Oh
qu'on peut trouver uniquement sur Salto. Parce que les petits malins de Salto, qui est du coup le mastodonte pour contrer Netflix.
Bien sûr.
On y croit tous.
Bah, le pire, c'est que au lancement, excuse-moi de te couper, mais au lancement. Les retours étaient que c'était pas si dégueu en termes
de. Le catalogue a pas l'air dégueu.
Vous avez essayé ou pas?
Non, en vrai non.
Ok.
Voilà, ok. Alors, pardon.
Il y a dans la section films d'horreur, il y en a 3.
Ouais. Ouais. Pourtant, c'est pas compliqué de choper des petits trucs.
Ouais.
Bon, ok.
Mais. Fargo saison 4, ça fait longtemps qu'on l'attendait.
Ouais.
On a eu la sortie repoussée à cause du Covid.
Ouais.
Donc là, on l'a enfin. Il y a 5 épisodes qui sont sortis. Donc Fargo, c'est une anthologie.
Mm-hmm.
Qui s'inspire évidemment du film des frères Coen.
Bien sûr.
Cette saison 4, elle se passe dans les années 50 à Kansas City. Et ça parle de deux clans de mafia qui s'affrontent.
Mm-hmm.
Donc des Italiens qui sont en place depuis un bon moment et les Afro-Américains qui arrivent. Donc c'est Jason Schwartzman qui joue un Italien contre Chris Rock.
Ok.
Et bon, habituellement dans Fargo, t'as toujours une sorte de playlist de personnages différents, enfin, très étonnants et bien différents les uns des autres. Là, c'est un peu plus basique. On est proche de Myler's Crossing dans le projet.
Ok.
C'est toujours rempli de plein de petits clins d'œil au Fargo.
Évidemment.
Je la trouve peut-être un peu moins originale que les autres. Mais bon, c'est toujours un plaisir, c'est toujours bien foutu. C'est très intelligent et bah allez-y hein.
Parfait, merci beaucoup pour vos recos culturels. Évidemment, vous avez la liste des films dont on va parler qui s'affiche sur votre appli de smartphone. J'oublie un truc peut-être. Non.
T'as pas de recos?
Oui, j'ai pas donné mon recos culturel.
Bah oui.
Je sais.
On t'a pas applaudi non plus.
Exact. Merci. T'es vraiment mon chanchon. Le recours culturel, je vais vous proposer. Alors, je vais pas vous proposer exactement The Third Day, qui est une série sur OCS avec Jude Law par le créateur d'Utopia. Je peux pas le décrire mieux que ça. Qui est sorti évidemment sur la plateforme d'Orange. Non, ce que je vais vous conseiller, c'est aussi sur la page Facebook d'OCS. Faut aller le chercher un petit peu. C'est la manière la plus simple en France pour le voir. C'est l'épisode de 12h, entre gros guillemets, live. puisque c'est censé être d'une seule traite un plan séquence de 12 heures, c'est pas exactement le cas, mais voilà. En tout cas, moi, mon avis sur ce genre de débat là, c'est que on s'en fout. Un épisode de 12 heures, il faut avoir vu les trois premiers épisodes qui sont des épisodes très classiques, très simples, d'une heure, avec Jude Law, qui est quelque chose de très contemplatif, évidemment. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui s'y passe, la première heure, c'est une heure sur un 4x4 qui va vers l'endroit où se passe la narration principale. Donc c'est, tu passes une heure sur un 4x4 qui avance à 5 à l'heure pour arriver sur l'île. Et alors, dit comme ça, généralement, en fait, il y a finalement assez peu de scènes. Sur les 12 heures, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de scènes. Donc, ça, les scènes prennent énormément de temps. Et suivant les scènes, on s'en fout ou c'est absolument fascinant. Typiquement, la scène du 4x4 d'intro, on s'en fout un petit peu. Par contre, avoir Jude Law qui creuse sa propre tombe pendant une heure et demie après avoir essayé de bouffer dans une espèce de remake de la scène dans l'eau en Angleterre, donc dans la mer, à 12 degrés, il flotte sur lui, et après voilà, il creuse sa propre tombe, et petit à petit la caméra se rapproche, et en fait il y a une espèce de travelling avant, mais sur une heure, où on part de 15 mètres de lui, et on arrive limite dans son œil avec la boue partout, et il est claqué, et machin. Ça donne quelque chose qui est vraiment fascinant. Je peux... En fait, c'est difficile de le conseiller, même si je suis en train de le faire. C'est difficile de le conseiller, et en même temps, c'est quelque chose qui est... Là où je sauve un petit peu le projet, c'est que c'est pas du tout un épisode de 12 heures qui a été fait en mode concept ou juste pour regarder, on peut le faire, ou on peut faire un genre de truc comme ça, on peut faire un live de 12 heures. C'est y a un vrai projet narratif derrière. Il y a montrer la souffrance dans le temps, quelque chose qu'on peut avoir par exemple avec certaines séquences les plus connues de Tarkovsky, mais étirées à leur maximum. Je dis pas que ça s'inspire de Tarkovsky ni que ça mérite Tarkovsky, je dis que le procédé narratif prime sur le procédé juste technique. Donc il y a des sentiments qui essayent d'être mis en jeu, ça marche pas, c'est pas vraiment la question, mais en tout cas l'intérêt est là, et si jamais vous êtes curieux, et si jamais vous avez beaucoup 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 aimé The Third Day, ça se tente, sans quoi passer votre chemin, évidemment. Voilà, ça fait Marocco culturel. On vous invite évidemment à regarder les épisodes qui défilent sous vos yeux des 7 films dont on va parler ce soir, plus le quiz.
Rassurez-vous, le quiz ne dure pas 12 heures.
Non, le quiz ne dure pas 2 heures. C'est ni 12, ni... Voilà, c'est un quiz tout à fait... avec des durées tout à fait raisonnables. On vous invite à nous suivre évidemment sur Facebook, sur Twitter, surtout, c'est là où on est le plus actif. Et puis on vous dit bonne écoute. Merci beaucoup. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.